15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le gentil Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Et le très pertinent Jimmy Mohamed. Surtout. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à notre peau, ou plutôt au moyen de la chouchouter. Comment bien choisir ses cosmétiques par exemple, si on a la peau grasse, mixte ou sèche. On verra que les produits qu'on utilise ont une importance. On fera le point avec notre invitée Isabelle Marnia, elle est docteure en pharmacie. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de l'hypoglycémie et des réflexes à avoir quand elle survient. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler du muguet. Alors rien à voir avec la fleur bien sûr, mais on parlera là de cette mycose de la bouche qui touche parfois et même souvent les petits bébés. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Il sera question des enfants quand ils découvrent leur corps et surtout leur partie génitale. Comment réagir et d'ailleurs, faut-il vraiment réagir face à cette étape qui est surtout tout à fait naturelle ?
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Fabrice, 43 ans.
Oui, bonjour docteur Mohamed, bonjour Mélanie. Je vous appelle parce que j'avais une question sur, quand on a le cœur brisé, on dit qu'on a le cœur brisé. Est-ce que ça arrive vraiment, du coup, est-ce qu'il y a comme une sorte d'infarctus, de crise cardiaque, enfin, ouais, d'infarctus, quelque chose qui pète, quelque chose dans une veine, un truc qui pète dans le cœur, est-ce que ça existe vraiment, est-ce que ça peut voilà, endommager le cœur, voilà, littéralement. Bah, merci beaucoup.
Alors Jimmy, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut avoir le cœur qui pète, comme dit, dit Fabrice ? Alors Jimmy, ce cœur brisé, je sais qu'il a un nom, on appelle ça le Takotsubo. Mais alors concrètement, c'est quoi le cœur brisé, le Takotsubo ?
Le Takotsubo, ça mime un infarctus, mais ça n'en est pas un. Takotsubo, c'est comme les sushis, c'est japonais.
On s'en doutait un peu, mais
ouais, ça a été décrit justement là-bas pour la première fois en 90.
Et ça veut dire quoi en
ça
fait ?
Ça veut dire piège à poulpe en japonais.
Là, le rapport avec le cœur, c'est
et
pas
en fait,
évident.
Ça veut dire que lorsqu'on est atteint de cette pathologie, le cœur prend la forme d'une amphore. Il est déformé et cet amphore sert à piéger les poulpes
au Japon oui,
d'où le nom du Takotsubo.
D'accord, on comprend mieux. Alors, c'est un faux infarctus, ce Takotsubo, et c'est causé en général par le stress. Parce que là, on dit la rupture amoureuse, mais bon, d'ailleurs, la rupture amoureuse, ça peut engendrer beaucoup de stress.
Exactement, c'est ce qu'on appelle une cardiopathie de stress. Et une étude s'est intéressée aux facteurs de risque, justement, de ce Takotsubo. Et c'est dans le New England Journal of Medicine,
prestigieux journal.
Exactement, en 2015, qui a montré que les chocs émotionnels, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est-à-dire une heureuse nouvelle peut vous déclencher cette cardiopathie.
Je crois qu'il y avait eu des cas de Takotsubo après un grand match de foot gagné, je ne sais plus de quelle coupe
sûrement
d'Europe ou de je ne sais quoi.
Une grande équipe comme le Paris Saint-Germain.
Ouais, ou l'OM, bien sûr.
Oui, à une époque. Et donc on a dit des facteurs positifs mais aussi négatifs comme un deuil, une séparation, d'où l'idée du cœur brisé, qui sont associés à 30% de Takotsubo. Mais ce n'est pas le seul. Le fait d'être une femme, c'est un facteur de risque.
Simplement, ouais.
C'est 90% de femmes et plutôt des femmes âgées de plus de 50 ans.
Ou plutôt ménopausées.
Plutôt ménopausées parce que finalement, l'œstradiol, lorsqu'il baisse, eh ben, il était protecteur à un moment de la microcirculation et surtout de l'effet vasoconstricteur de l'adrénaline. Donc ça protège le cœur. Mais on a retrouvé d'autres facteurs de risque. Le fait d'avoir des prédispositions génétiques, d'autres cas de Takotsubo ou de maladie du cœur brisé dans la famille. Et puis le fait d'avoir des pathologies psychiatriques comme la dépression ou neurologiques comme faire un AVC, un AIT, donc un accident ischémique transitoire ou des convulsions. Tout ça, c'est des facteurs de risque d'avoir cette pathologie.
Mais une pathologie qui reste assez rare quand même, il faut le préciser. Combien de personnes à peu près sont touchées ?
C'est 2% simplement des gens hospitalisés pour une suspicion d'infarctus.
Ah oui, donc c'est quand même rare. Donc,
c'est quand même très rare. Et dans la grande majorité des cas, le problème, c'est qu'on pense que c'est un infarctus.
Ça ressemble, de toute façon. Les signes, c'est quoi ?
C'est essentiellement une douleur thoracique à type d'oppression. On sent qu'on a l'impression qu'on va faire un malaise, qu'on va tomber dans les pommes.
Une pression thoracique.
Exactement. Et donc, ça mime l'infarctus. Donc, à ce moment-là, il y a un réflexe à faire. C'est absolument de consulter et en urgence.
Mais alors, c'est quand même une urgence, par contre, vous le dites.
Exactement.
On appelle le 15.
Si vous avez une douleur qui vous serre dans la poitrine, si elle irradie dans le bras gauche, dans la mâchoire.
Comme un infarctus.
Comme un infarctus, il faut appeler le 15. Vous êtes hospitalisé en soins intensifs de cardiologie. Vous aurez ce qu'on appelle une coronarographie, une exploration des artères du cœur qui sera normale. En revanche, il y a ce qu'on appelle la ventriculographie, c'est-à-dire l'observation du ventricule montrera que celui-ci est un petit peu déformé, la forme d'une amphore.
Comme on a dit,
et dans règle générale, tout rentre dans l'ordre avec un traitement médical bien conduit.
D'accord, en quelques mois, c'est réglé. Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Pierre-Laurent, 38 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy Mohamed. Je vous appelle car j'ai entendu dire que la musique pouvait avoir des bienfaits sur notre santé, sur le cœur et même sur notre cerveau. Alors si c'est vrai, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Merci beaucoup.
Alors Jimmy, la musique, on en parlait hier d'ailleurs, mais on va en reparler. Elle nous émeut, elle nous rend joyeux, elle nous rend nostalgique, mais est-ce qu'elle a des propriétés musicales, médicales, pardon.
Oui, c'est des propriétés anxiolytiques, relaxantes, et c'est le médecin de la Fédération Française de Cardiologie, Claire Mounier-Veillé, qui nous l'avait expliqué, et qui nous dit que lorsqu'on écoute une mélodie agréable, la fréquence respiratoire diminue.
Donc, la fréquence cardiaque.
Et du coup, on protège son cœur. Alors, c'est peut-être pas valable si on écoute du Booba ou du Caris, mélodie plutôt douce, ça protège le cœur.
Et c'est bon pour le cerveau aussi, notamment. Le professeur Abitbol, qui était avec nous hier, le grand spécialiste de la voix, nous expliquait sur le cerveau des bébés.
Exactement. Étude extraordinaire. Lorsqu'une maman chante à son bébé sans le toucher, sans le caresser, on diminue l'hormone du stress, qui est le cortisol, et on augmente l'hormone du plaisir, de l'attachement, qui s'appelle l'ocytocine. Donc, chanter a un vrai impact, notamment sur votre bébé.
Et donc sur leur cerveau. Merci beaucoup Jimmy. Si vous aussi, comme Pierre-Laurent qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 3921, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des réflexes à avoir en cas d'hypoglycémie. Et puis, on accueillera aussi notre invitée, c'est Isabelle Marnia, docteur en pharmacie, avec qui on va faire le point sur tous les moyens pour avoir une belle peau le plus longtemps possible. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée Isabelle Marnia, avec qui on va apprendre à prendre soin de notre peau, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez d'un spray nasal utilisé dans les hypoglycémies sévères chez le patient diabétique, mais d'abord, on va quand même faire un point sur ce que c'est que l'hypoglycémie. Comment on la reconnaît, cette hypoglycémie ?
Alors, l'hypoglycémie, elle se traduit par une baisse anormale du glucose dans le sang, avec une glycémie qui sera inférieure à 0,7 g par litre. Les symptômes, alors, ils sont propres à chacun, et ils ne sont pas tous toujours identiques, mais on retient des sueurs, une pâleur, une sensation de faim, une vision floue, des tremblements, une sensation de faiblesse et surtout chez les enfants, un trouble de l'humeur. Tout d'un coup, il devient très excité, très content, très joyeux. Ah oui. C'est des signes d'hypoglycémie, mais en règle générale, les patients diabétiques connaissent bien les symptômes.
Ça peut arriver à tout le monde, même quand on n'est pas diabétique, justement.
Eh bien non, justement, il y a souvent cette idée reçue selon laquelle on ferait des hypoglycémies comme ça. Eh bien non, elle survient.
Moi, dès que je vois quelqu'un de pâle, je dis oula, tu dois être en
hypoglycémie. Peut-être qu'ils font un malaise vagal, une baisse de la tension, mais l'hypoglycémie, elle survient chez le diabétique et pas chez tous les diabétiques. Diabétiques traités par insuline ou médicaments qui fait vraiment baisser le sucre dans le sang. Le jeûne prolongé ne donne pas d'hypoglycémie. Normalement, on a une réaction physiologique.
Donc c'est faux quand on dit « Ah, tu dois être en hypoglycémie ».
Exactement, c'est l'idée reçue. Par contre, l'alcool entraîne des hypoglycémies.
La forte consommation
d'alcool entraîne l'hypoglycémie. En dehors de ces situations-là, en règle générale, on n'en fait pas.
Et alors, quels sont les premiers réflexes à avoir en cas d'hypoglycémie, s'il y en a vraiment une,
quoi ? De toute urgence, il faut cesser son activité. Donc, ce n'est pas le moment de lutter contre les symptômes. Si on est en voiture, on se met sur le côté. Si on est en train de faire quelque chose, on s'arrête. Et il faut essayer de se resucrer. L'idéal, c'est de prendre l'équivalent de 15 grammes de sucre. Alors, ça correspond
à quoi, ouais.
3 morceaux de sucre.
Une
briquette de jus de 15 centilitres, une petite canette de soda.
Une
canette de soda non light de 15 centilitres, une cuillère à soupe de confiture ou de miel, et il faut recontrôler la glycémie 15 minutes après pour être sûr qu'elle n'a pas rechuté.
Alors on y revient quand même, puisque c'est ça dont vous vouliez nous parler aujourd'hui, un tout nouveau spray nasal anti-hypoglycémie, c'est quoi ce spray ?
Exactement, jusqu'à présent, en cas d'hypoglycémie sévère, en dehors de l'hôpital, il fallait injecter ce qu'on appelle du glucagon, donc faire une piqûre en intramusculaire pour faire remonter cette glycémie lorsqu'elle est sévère.
Ouais.
Exactement. Sauf que l'Agence européenne du médicament vient de se prononcer en faveur de l'autorisation de la mise sur le marché d'une forme intranasale de glucagon.
Ça veut dire
que, exactement, plus besoin de faire d'injection, une simple inhalation sans avoir besoin que le patient respire profondément.
C'est génial.
Permet de faire remonter cette glycémie et donc par conséquent d'éviter des manipulations et surtout parfois on a peur de faire l'injection. Bref, ce sera disponible dans quelques mois à partir de 4 ans chez l'enfant. Donc ça peut révolutionner la vie des patients
diabétiques. De type 1, etc.
Exactement.
Bon, pas fabuleux. On est mis en forme des nouvelles formes galéniques aussi qui sont intéressantes dans les soins. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed.
Alors, 15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est Isabelle Marnia, elle est docteur en pharmacie et surtout l'auteur du livre « À fleur de peau » qui vient de paraître chez Flammarion. Bonjour Isabelle Marnia.
Bonjour Mélanie.
Alors, prendre soin de sa peau grâce à des cosmétiques, on imagine que c'est quelque chose qui est assez récent. Et pourtant, dans votre livre, j'ai lu que finalement, non, tout l'aspect beauté, cosmétique, ça vient déjà, ça existait déjà à la préhistoire.
Oui, tout à fait. À la préhistoire, en fait, c'était déjà un moyen de communication. Ils se mettaient en fait des poudres d'ocre et de l'argile et les graisses d'animal pour en fait se revendiquer, pour revendiquer ses clans. Et du coup, ils se maquillaient sur le
corps.
C'était
plus une forme de pouvoir que de beauté, alors.
Tout à fait, c'était une forme de pouvoir.
On est passé de l'homme des cavernes et même, j'ai lu dans votre livre qu'à l'Antiquité, là aussi, on cherchait à avoir une belle peau. Comment on faisait à cette époque-là?
Tout à fait. À l'époque des pharaons, en fait, ils mettaient de la poudre de lys pour éclaircir le visage. Et aussi à l'époque de Cléopâtre.
Ah, Cléopâtre, grande prêtresse de la beauté. Qu'est-ce qu'elle faisait, Cléopâtre?
Alors, Cléopâtre mettait de l'or, en fait, mettait des masques d'or, qui sont des antioxydants, en fait. Et en même temps, elle lui donnait un teint de porcelaine et du lait d'anèse.
Ça, c'est connu. Hein, ouais.
Voilà. Et l'aloe vera aussi, qui est de l'hydratation.
Et donc, elle avait une peau magnifique dans ce qu'on a lu, en tout cas, sur elle, grâce à tout ça. Jimmy?
En revanche, au Moyen-Âge, il y a une forme de régression. Et avoir une belle peau, c'était vu comme quelque chose de plutôt négatif, voire satanique, notamment par l'Église.
Ouais,
est-ce qu'on a quelques recettes de beauté, malgré tout, de l'époque?
Alors, la cour, par contre, prenait soin d'elle. Et du coup, ils prenaient des bains et ils se lavaient à base de savon et de pain d'amande. Et ils mettaient aussi des huiles de myrrhe. Mais c'est vrai que l'Église n'acceptait pas trop.
D'accord. Et ensuite, en fait, la beauté, on va dire, de la peau telle qu'on la voit aujourd'hui, finalement, ça a commencé après la Révolution. De là, on a commencé à associer beauté de la peau et santé, finalement, aspect santé, hein, c'est ça?
Tout à fait. Une âme pure pour un corps sain.
D'accord.
C'était quand on a une bonne santé, on a une jolie peau.
Juste, on va revenir quand même sur ce que c'est la peau, peut-être avant de rentrer dans les détails des cosmétiques. La peau, elle est faite de plusieurs couches.
Tout à fait, trois couches.
Alors, qu'est-ce que c'est, quoi ces couches?
Alors, il y a l'hypoderme, le derme et l'épiderme.
Alors, l'hypoderme, c'est quoi?
L'hypoderme, en fait, c'est la première couche qui, en fait, est constituée de cellules adipeuses. Et en fait, c'est une réserve énergétique. Et du coup, quand vous alimentez, vous prenez en fait du gras et du sucre. Et les cellules adipeuses vont stocker. Donc, du coup, vous allez faire du gras. Enfin, vous allez stocker. Et ça, c'est l'effet lipogénèse. Et quand on a besoin d'énergie, les cellules adipeuses vont libérer de l'énergie. Et du coup, c'est l'effet lipolyse.
Rapidement, la deuxième couche, c'est quoi?
Alors, le derme. Donc, le derme est constitué de cellules sudoripares.
Qui fait transpirer. Hein.
Exactement, qui donne le sébum. C'est elle qui crée le sébum. Et à l'intérieur aussi, vous avez donc des fibroblastes qui créent en fait le collagène et l'élastine. Donc, le collagène, en fait, ça donne un effet de résistance pour les tissus. Et l'élastine, c'est une souplesse en fait de peau.
On va passer à l'épiderme tout à l'heure. Vous restez avec nous, Isabelle Marnia. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique aussi. On verra notamment qu'avoir une belle peau, ça passe d'abord dans l'assiette. Ce que l'on mange a une importance. Il y a des vitamines et des nutriments indispensables pour chouchouter notre enveloppe corporelle. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée Isabelle Marnia, docteur en pharmacie. Elle nous apprend aujourd'hui comment prendre soin de notre peau, de notre enveloppe corporelle. Alors pour commencer Isabelle, pour en prendre soin de notre peau, il faut bien la comprendre. Donc on a parlé tout à l'heure des deux premières couches, mais il y en a une troisième, donc qui est l'épiderme, qui est celle qui est vraiment la surface, celle qu'on voit, celle qu'on touche, c'est notre visage, hein, c'est ça?
Tout à fait. Donc l'épiderme est constitué de kératinocytes. C'est elle en fait qui se renouvelle. Les cellules, elles forment en fait des kératines et ça se renouvelle tous les jours. Et le soir, en fait, quand vous dormez, il y a un renouvellement cellulaire constant.
C'est la partie qu'on chouchoute en fait finalement avec des produits cosmétiques.
Alors c'est la partie qu'on chouchoute, mais c'est la partie la plus importante, c'est celle du derme.
Qui est juste en dessous, donc
qui est juste
la couche
en dessous,
numéro 2.
Exactement. Et qui est constituée donc du collagène et de l'élastine et aussi de l'acide hyaluronique, qui est très très important pour nous parce qu'en fait c'est une molécule qui retient l'eau et donc c'est ça qui va vous donner l'hydratation. Et grâce à cette molécule, que malheureusement à partir de 25 ans on perd, et c'est celle-là qui nous hydrate et qui nous rebondit la peau et qui nous donne cette peau assez rebondie et jeune en fait.
Ça c'est tant qu'on a 30 ans, quoi. Jusqu'à 30 ans, après, c'est fini, quoi. Ça se...
Alors, c'est pas fini, parce que justement, il y a des produits cosmétiques pour ça,
après, ouais.
Qui vont justement vous rebooster tout le système endogène de votre racine neuronique. Vous allez pouvoir le recréer.
Alors, avant de parler Oui, allez-y, pardon.
Et donc, dans l'épiderme, je vous coupe juste, il y a aussi donc, les mélanocytes. C'est elle, en fait, qui va vous protéger des UV. C'est elle, en fait, qui va pigmenter votre peau et des cellules de Langerhans qui jouent un effet sur l'immunité.
Très bien. Alors, on a dit qu'on parlerait aussi de ce qu'il faut mettre dans son assiette, parce que, bon, bien sûr, il y a les cosmétiques, on en parlera tout à l'heure, mais ce qu'on mange, les vitamines, les nutriments qu'on absorbe dans notre alimentation, ça a vraiment une importance très importante pour la peau.
C'est très, très important. L'alimentation, c'est
la première crème qu'on peut se mettre, entre guillemets, mais dans l'assiette.
Exactement, ouais. Tout à fait. Il faut très bien s'alimenter et prendre des vitamines, vitamine C, vitamine A, vitamine E. Tout ça, ça va vous donner un teint clair, ça va vous créer une régénération cellulaire, un antioxydant. Par exemple, la vitamine C, c'est un des meilleurs antioxydants et ça va aussi vous éclaircir la peau et en même temps, vous allez créer, vous recréer le collagène grâce à la vitamine C.
Jimmy ?
Et vous dites aussi que pour avoir une belle peau, il faut éviter le sucre. Ouais. Donc le sucre, on a compris que ce n'était pas bon pour le cœur, le cerveau, voilà. Mais pour la peau, mais pourquoi est-ce que c'est nocif le sucre ?
Alors le sucre provoque des inflammations. Ensuite, il pollue l'intestin. Donc du coup, il crée un stress oxydatif. Et donc du coup, ça va se ressentir sur votre peau. Donc vous allez avoir, ça peut provoquer aussi de l'acné, ça va vous créer une inflammation et aussi des rougeurs.
Ah oui, donc le sucre, on oublie. Les oméga-3, par contre, je crois, vous dites dans votre livre que c'est très bon, on en trouve notamment dans les huiles végétales. Ça participe à quoi, les oméga-3, pour la peau ?
En fait, ce sont des lipides qui vont vous protéger par rapport aux membranes.
C'est du bon gras.
C'est du très bon gras. À l'oméga-3, c'est très bon pour la peau, pour
les neurotransmetteurs.
Mais surtout
du corps, vous m'avez dit, plus que pour le visage.
Et aussi pour le corps, et tout à fait, ça va vous donner une élasticité sur la peau.
Jimmy ?
Et vous dites qu'apparemment, il faut manger des carottes pour avoir un bon teint.
On a toujours dit ça, mais c'était juste pour m'en faire avaler.
Oui, exactement. Je pensais que c'était un mythe, mais vraiment, manger des carottes, ça donne un teint allé.
Regardez, j'en ai mangé beaucoup, moi.
Je ne suis pas très convaincue, justement. Mais oui, donc les carottes pour le teint, c'est bien.
Oui, c'est très très bien. En fait, ça contient du bêta-carotène et qui fait partie de la famille des flavonoïdes. Et donc, du coup, en fait, ça va vous donner, vous savez, cette couleur un peu orangée qui
donne un bon teint.
Pour
ça, les bébés, ils ont
le
nez orange quand ils commencent à manger de la purée de carottes. Ça colore, en fait, vraiment.
Tout à fait.
Et puis aussi la vitamine C. Non, c'est faux, ça.
Alors ça, je ne suis pas sûre.
Vous devriez essayer du miso.
Je crois que je manque un peu de carottes.
Ça vous apporte aussi la vitamine C, qui est très importante, qui est antioxydant et qui va vous créer le collagène aussi.
Alors Isabelle Marnière, on va continuer cette discussion dans 3 minutes, vous restez avec nous.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc aux cosmétiques, à tous ces produits qu'on peut utiliser pour prendre soin de sa peau, les crèmes, les lotions, les huiles, lesquelles choisir en fonction de son type de peau. Et faut-il vraiment les utiliser tous les jours ? On vous dira tout, restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit, sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée Isabelle Marnière, docteur en pharmacie. Elle nous apprend aujourd'hui comment prendre soin de notre peau. Alors on va parler à présent, Isabelle, des différents types de peau, parce qu'on n'est pas tous égaux sur le plan cutané. Grosso modo, il y a combien de types ? Alors je sais qu'il y a les gras, les mixtes.
Il y a trois types de peau. D'accord. Il y a la peau sèche, la peau mixte et la peau grasse.
Moi j'ai quoi ?
Vous avez une peau...
Parfaite, Mélanie. Non. Voilà, c'est la réponse. Elle veut entendre que ça. Elle ne veut pas savoir ce qu'elle a. Elle a une peau parfaite.
En effet, parfaite.
Donc, ce n'est pas pareil. Donc, j'imagine quand on a un normal mixte... Une peau mixte, c'est quoi ? C'est quand elle est un peu les deux, quoi. C'est ça, un peu sèche, un peu grasse, en fait.
Exactement, la zone T, en fait.
Donc, la zone T, elle est un peu sèche. Décrivez-nous cette zone. C'est entre
le front, le nez et le menton. Là, on a du sébum, en fait.
D'accord. Et il y a aussi les peaux sensibles. C'est encore un autre type de
tout
peau. J'imagine un peu réactive, c'est ça ?
C'est des peaux réactives, tout à fait. Mais c'est souvent des peaux sèches.
Alors, mais quand on a la chance, comme moi ou Jimmy, d'avoir
un peau normale,
en fait, du coup, il n'y a rien à faire, on est d'accord.
Alors non, je ne suis pas d'accord, il faut hydrater sa peau, ça c'est très important. Et puis mettre quand même des crèmes en prévention, parce que malheureusement, même si vous avez une peau parfaite...
On ne parle pas de moi, on dit vous en général.
Oui, une peau normale, on va dire. En vieillissant, on va perdre justement toute cette jeunesse, c'est-à-dire l'acide hyaluronique, le collagène, l'élastine. Et donc du coup, il faut justement rapporter ce collagène, l'élastine à la peau pour avoir la tonicité, la raffermir et avoir une peau bien rebondie et bien hydratée.
Donc même quand elle est normale, il faut quand même la chouchouter,
l'hydrater. Il faut tout le temps chouchouter sa peau, d'accord. C'est très important.
Alors quand on a une peau mixte ou une peau grasse, là j'imagine que c'est un peu plus compliqué. Une peau mixte par exemple, donc vous avez dit la zone T un peu grasse, c'est ça, le reste sec. C'est quoi la routine beauté quand on a la peau mixte ?
Alors tout dépend de l'âge déjà.
Bon, mettons 35-40 ans, on fait quoi ?
Alors à 35-40 ans, donc déjà on a une peau mixte, donc il faut bien se nettoyer. Déjà, très très important de bien se nettoyer le visage.
Jimmy, vous notez s'il vous plaît. Hein.
Je prends des natures.
De bien se nettoyer le visage et de faire des gommages. On peut faire deux fois par semaine un gommage pour pouvoir justement enlever toutes ces cellules, toutes ces toxines. Et ensuite, il faut l'hydrater, mettre des sérums. Alors, faut pas mettre des crèmes avec des trop riches, parce que justement, ce sébum...
Encore plus se produire, enfin, il y en aura plus. Quoi.
Exactement. Donc, il faut trouver une crème qui soit adaptée. Chaque personne a une peau vraiment différente, donc il faut vraiment demander conseil à la personne qui vous vend la crème pour pouvoir adapter votre âge et votre type de peau.
Là, quand on a la peau vraiment grasse, pour le coup, avec éventuellement des imperfections, des boutons, là, j'imagine qu'il y a quand même plus de travail. Ouais. Le but, c'est quoi? C'est d'essayer de réguler la production de sébum, parce qu'il y en a trop.
Ouais,
ça
tout à fait.
Et ça passe par quoi, cette régulation?
Alors, on peut faire des masques à l'argile.
Ça sèche un peu,
ça sèche, et donc ça va vous détoxifier, ça va être astringent. On peut mettre aussi, on peut faire des petits peelings à l'acide glycolique.
Qu'on fait tout seul à la maison, hein, c'est ça?
Oui, il y a 20% d'acide glycolique, on peut mettre sans problème. On le fait le soir, c'est mieux, parce que il faut faire attention au soleil. Donc c'est très bien, et ça va vous tuer toutes les cellules mortes, ça va vous créer une régénération cellulaire, et ça va vous enlever tout cet excès de sébum.
Jimmy, vous trépignez, là, je vois que vous avez plein de questions.
Mais oui, notamment sur les peaux grasses, parce que
ça me concerne.
Qui dit peau grasse dit excès de sébum, et donc, du coup, on a tendance à peut-être vouloir le masquer, notamment avec des crèmes.
Vous mettez du fond de teint, par exemple.
Seulement à la télé pour cacher la misère, je ne vais pas vous mentir. Dans la vie quotidienne, les patients doivent subir mon visage. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut mettre malgré tout du maquillage lorsqu'on a une peau grasse? On risque pas d'étouffer encore plus la peau et la rendre encore plus malade?
Alors moi, je donnerais plutôt le conseil de ne pas trop mettre justement de fond de teint, de choses pour encrasser. Parce que plus vous mettez toutes ces crèmes de maquillage, plus vous encrassez en fait les boutons et plus ça va s'enflammer. Donc moi, j'aurais tendance à dire de mettre juste, si elles veulent, une petite poudre pour essayer de cacher ou juste au niveau du bouton. Mais je ne suis pas pour tous ces maquillages.
Et surtout, notamment les adolescents qui ont tendance au moment justement la puberté, on n'est pas très bien, on est mal à l'aise avec son corps. Et du coup, on met du fond de teint pour cacher les imperfections.
En fait, on aggrave,
on aggrave les choses. Donc ça, ce message passe.
Il faut le traiter.
Exactement,
il faut essayer de le traiter.
C'est une autre émission, effectivement. Mais l'acné, par exemple, ça se soigne. Il y a des bons dermatos qui, aujourd'hui, ont des bons traitements. Mais en tout cas, pas trop de maquillage non plus, parce que ça accentue, au contraire, le problème. Alors, vous allez nous aider maintenant à y voir un petit peu plus clair dans tous les produits qu'on trouve dans les supermarchés, dans des boutiques cosmétiques, etc. C'est quoi déjà la différence entre une crème de jour? Bon, moi, j'avoue, je ne suis pas trop une pro dans les produits de beauté. Une crème et un fluide, c'est quoi la différence, par exemple?
Alors, une crème, c'est une émulsion. Il y a deux types de crèmes, en fait, c'est eau dans huile ou huile dans eau. Eau dans l'huile, c'est plutôt les crèmes de jour, c'est-à-dire c'est en fait on met des petites gouttelettes d'huile dans l'eau, et les fluides, en fait, c'est des textures beaucoup plus légères. Donc justement, c'est pour les peaux trop grasses, elles peuvent mettre des fluides justement
plutôt que des crèmes.
Exactement. Et dans les crèmes, il y a des actifs plus riches.
C'est quoi un sérum? C'est quoi l'intérêt de ces sérums? De plus en plus, on en voit maintenant. En plus de la crème, moi, c'est vrai qu'on a essayé de me vendre il n'y a pas longtemps encore un sérum, soi-disant boostant, revitalisant. Bon, j'avoue, la peau est pas mal, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert en réalité. Ça se met quand d'ailleurs, le sérum?
Alors, le sérum, ça se met sous la crème, sous une peau nettoyée. Ça, c'est très important. Et ça va vous rebooster. Ça dépend, parce qu'il y a plusieurs styles de sérums. Il y a des sérums à l'acide hyaluronique, au collagène marin, à l'élastine. Donc, en fait, ce sont des boosters. Par exemple, le sérum acide hyaluronique, c'est un booster d'acide hyaluronique. Vous allez recréer votre acide hyaluronique grâce à ce sérum. Et par-dessus, vous mettez votre crème. Donc, c'est avec des actifs plus concentrés, en fait, par rapport à la crème.
Jimmy ?
Et il y a une petite astuce dans votre livre. Apparemment, il ne faut pas utiliser son doigt pour prendre la crème dans le pot. C'est ce qu'on fait tous.
On ne trempe pas le doigt dans le pot de confiture, ni dans la crème de jour. Pourquoi ?
Parce qu'on apporte des bactéries.
Donc,
en fait, parce qu'on a tous des... faut mettre... Alors, souvent, on vous donne des petites cuillères ou des... C'est mieux de faire comme ça.
Vous faites comme ça, avec une petite cuillère ?
Ouais.
Sinon, il y a les flacons avec les pompes.
Après, il y a des flacons pompes, tout à fait. Mais tout dépend, parce qu'il y a des gens qui préfèrent le pot, il y en a qui préfèrent le flacon pompe. C'est très variable. C'est vrai que le flacon pompe est mieux pour l'hygiène.
C'est quoi une eau micellaire? C'est à la mode, ça aussi. On a l'impression que ça sert à tout, à nettoyer, hydrater, je veux dire. C'est quoi l'intérêt d'une eau micellaire?
Alors, l'eau micellaire n'a pas de savon ni d'alcool. Donc, en fait, c'est pour... Il y a des micelles, en fait, qui sont dans les liquides et qui vont vous démaquiller, vous enlever tout votre gras. Ça va enlever le surplus que vous avez sur le visage. C'est très bien, justement, quand on a des peaux sensibles, irritables. C'est parfait, c'est très bien l'eau micellaire.
Juste pour terminer, la crème de nuit, c'est vraiment indispensable, ça a un intérêt?
C'est très indispensable, parce que tout se passe la nuit. Donc il faut justement une crème de nuit pour que les cellules se régénèrent et pour que les toxines partent. C'est très très important.
Très bien, merci beaucoup Isabelle Marnier.
Merci beaucoup Mélanie.
Sur notre plateau.
Merci.
Nous distiller vos bons conseils, je rappelle le titre de votre livre, À fleur de peau, chez Flammarion. Merci encore.
Merci, au revoir.
Dans un instant, notre chronique Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé au muguet. Rien à voir avec la fleur, bien sûr. Mais on parlera là de cette mycose de la bouche qui touche parfois même les bébés. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle du muguet. Que savez-vous de cette mycose de la bouche? Pourquoi elle survient? Et surtout, comment ça se traite? Notre reporter Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
Muguet buccal, bah pour le coup, ça c'est dans la bouche. Le muguet buccal, c'est ça, c'est une MST?
Je pense que c'est l'apparition de petites clochettes.
Comme la crête de coque, ça doit faire des grappes, un truc absolument immonde. Des petites perles blanches.
Je pense que c'est en rapport à une relation sexuelle, ouais.
Peut-être pas chez l'adulte, peut-être plus chez les enfants.
Quand on a la langue, a priori, un peu blanche-jaune, comme une sorte de champignon qui vient se poser dessus.
À partir du moment où il y a quelque chose qui apparaît dans la bouche et qui n'est pas naturel, je pense que c'est grave.
Je pense qu'il faut faire un bon bain de bouche, une bonne hygiène. Au mois de mai, voilà, muguet, 1er mai, ouais, je dirais peut-être une infection infantile qui se fait au printemps, peut-être avec le pollen. Ouais, certainement avec le pollen, je dirais.
Avec le pollen. Non, alors le muguet, donc on avait dit ça n'a rien à voir avec une fleur. Donc c'est une mycose, mais pourquoi on l'appelle comme ça, Jimmy? Ça n'a rien de fleuri pourtant, hein, la mycose, à mon avis.
Oui, effectivement, ouais. Le muguet, donc c'est ce qu'on appelle une candidose, donc une infection à un champignon qu'on appelle le candida albicans. Ce candida albicans est présent de façon naturelle dans la sphère ORL et ailleurs, sauf que lorsqu'il prolifère et qu'il y en a un peu trop, eh ben, ça développe ce qu'on appelle ce fameux muguet, notamment parce qu'on a une langue qui initialement sera un peu rougeâtre et qui sera ensuite rempli d'un enduit blanchâtre qui ressemble
le
à un muguet.
Ah, d'où le côté muguet, quoi, c'est
exactement.
Ça.
C'est et
quand
muguet,
on frotte dessus,
quoi.
Ça part pas, quoi,
exactement.
C'est ça. Hein, c'est...
Et d'ailleurs, ouais. Pour le reconnaître, souvent, les parents se demandent comment reconnaître un muguet chez l'enfant et se focalisent sur la langue. Le muguet commence souvent sur la face interne des joues.
Ah,
une langue
des
blanche
joues.
Peut signifier qu'il vient de prendre son lait, le biberon ou le sein de la maman, et donc ça sert à rien de s'exciter. En revanche, le voile du palais ou la face interne des joues...
Qui sont comme recouverts un peu de l'écaillé.
Voilà,
hein,
exactement,
ça
de l'écaillé. Ouais. Et ben, c'est le signe de muguet. Et à ce moment-là, il faut consulter. Mmh.
Alors, est-ce que ça fait mal et comment les bébés ils attrapent ça?
Alors, c'est pas forcément très douloureux. En revanche, les bébés pleurent lorsqu'ils prennent le biberon ou le sein de la maman, car le muguet altère le goût en fait du lait. Du coup, il a l'impression de boire un lait qui serait avarié, un lait qui aurait mauvais goût. Et donc, il comprend pas. Il n'est pas rassasié.
C'est pas la douleur qui.
Exactement. Donc, il a pas spécialement mal. Il a juste un dégoût. Et comme il a un dégoût, il boit avec difficulté. Et à ce moment-là, il se met à pleurer. Et en général, ils attrapent ça. Lorsqu'il y a un déséquilibre de la flore buccale, c'est très fréquent chez l'enfant de moins de 6 mois parce que leur système immunitaire est un peu immature et ça survient aussi après la prise d'antibiotiques.
Et oui,
parfois,
c'est vrai.
Ce muguet au niveau de la bouche, on le retrouve au niveau des fesses.
Ah, c'est pas un érythème.
Exactement,
en fait,
c'est un érythème parce que la bactérie, le champignon qui est dans la bouche, passe dans le tube digestif, se retrouve dans les selles.
Et il adore les endroits
les
un peu humides et tout.
Exactement.
Ça. Et donc, quand il y a des couches, forcément, effectivement, c'est propice au développement de champignons. On va parler surtout des bébés, hein, Jimmy, là, parce que rassurez-nous, ce muguet dans la bouche, ça se soigne quand
exactement,
même.
Exactement, ça se soigne, mais ça prend du temps. Ah. Il faut 2 à 3 semaines de traitement minimum avec un antifongique qui est souvent sur prescription médicale. Et à ce moment-là, le bébé reprendra son alimentation au bout de 2-3 jours, mais dès lors que les symptômes ont disparu, il faut encore le continuer durant une semaine.
D'accord.
Donc si au bout d'une semaine, vous n'avez plus de symptômes, on est content, mais il faut continuer
une semaine.
Et ça se met
dans la bouche comme ça, c'est ça ?
Alors, il y a 2 possibilités, soit sous forme de gel buccal, mais il y a un âge à respecter, soit une solution buvable qu'on met 4 à 5 fois par jour, qu'on badigeonne avec une petite compresse ou la main, tout simplement.
Un petit coton-tige, peut-être, non ?
Oui, une petite compresse, c'est pas mal, parce que le coton-tige, c'est compliqué. Ou avec le doigt, on badigeonne, c'est fait pour être avalé, et on fait ça à distance du repas ou du biberon, parce que si vous mettez le produit dans la bouche et que le bébé prend le biberon derrière, eh ben ça n'a aucune efficacité.
D'accord. Et chez les bébés allaités, parfois le muguet aussi, je sais qu'il peut toucher les seins de la maman.
Exactement.
Qu'est-ce qu'elle peut faire, la maman ?
Eh ben, tout simplement, de mettre le traitement fongicide sur les seins et le mettre ensuite au sein pour qu'il puisse téter. Et à ce moment-là, on traite la maman et le bébé. En revanche, parfois, il ne faut pas oublier de prévenir cette candidose, parce que parfois, c'est la maman qui développe un petit candida qui va
filer au bébé.
Hein, donc, il faut bien sécher les seins après l'allaitement, ne pas hésiter à mettre des compresses pour sécher, bien
compresse
les laver.
Stérile. Et à chaque fois, à chaque allaitement, on change la compresse, hein,
et
j'imagine.
Et puis, un truc tout bête, se laver les mains, c'est des règles d'hygiène de base.
Et un bébé qui est au biberon, pour le coup, les tétines, pareil, il est stérilisé, non?
Exactement,
c'est ça, j'imagine.
Tétine du biberon, mais aussi...
Parce que c'est contagieux, hein, c'est ça. Hein.
Oui, l'anneau de dentition, ça peut être aussi la tétine qu'il a durant la nuit, donc on la fait bouillir dans de l'eau pendant quelques minutes, ça suffit. On n'est pas obligé d'acheter les produits détergents. Mais bref, il faut consulter et on peut le prévenir facilement.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question des enfants quand ils découvrent leur corps et surtout leur partie génitale. Comment réagir? Et d'ailleurs, faut-il vraiment réagir face à cette étape qui est en fait tout à fait naturelle dans le développement de l'enfant? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, on accueille tout de suite Catherine Blanc, qui est notre sexologue et qui est donc psychanalyste également à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question d'une jeune maman qui s'appelle Chloé. Elle nous écrit à propos de sa petite fille. Et je vous lis sa question. Ma fille de 2 ans se touche de plus en plus souvent au niveau du sexe sous la douche. Je sais que c'est naturel, mais je devrais lui dire quelque chose. Elle va comprendre qu'on ne fait pas ça en public, mais à quel âge? Alors Catherine, d'abord, pourquoi certains enfants, comme la fille de Chloé, se touchent le sexe comme ça, sous la douche? Enfin, 2 ans, c'est normal, enfin, c'est l'âge, c'est...
Oui, c'est le moment où... Alors d'abord, c'est le moment où l'enfant découvre petit à petit, s'éveille la libido, donc de fait...
À 2 ans, déjà
Oui, c'est en chemin, vous savez, il n'y a pas une date où pile poil tous les enfants y passent, ça dépend vraiment de leur éveil. On a des éveils intellectuels différents, des éveils corporels différents les uns et les autres, mais on peut se dire que c'est grosso modo dans cette tranche d'âge-là. Et puis... Après, c'est aussi une histoire de rencontre, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, tiens, elle a trouvé un truc incroyable. Donc il y a la libido qui conduit la main, mais il y a aussi les événements, le fait qu'on...
Ça peut être le hasard, elle a touché, hasard. Elle a vu que ça lui faisait du bien. Et
elle est tout à fait intelligente, et comme elle est très intelligente, elle y revient.
D'accord, et donc c'est quelque chose de naturel.
C'est quelque chose de tout à fait naturel, il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à cela, si ce n'est évidemment de pouvoir gérer cela en tant que maman en face et être en tranquillité par rapport à ça soi-même.
Jimmy ? Mais on est d'accord qu'on ne parle pas de masturbation dans ce cas-là ?
Ah bah c'est de la masturbation, en termes étymologiques, hein, c'est de la masturbation. Ah oui. C'est bien une main qui vient solliciter un lieu d'excitation, qui a bien repéré qu'il y avait une vraie jouissance, et que donc, comme il y a une vraie jouissance, il y a une répétition assez naturelle quant à cela.
Mais oui, et donc, la masturbation, ça peut commencer à 2 ans, alors?
Oui, bien sûr, mais vous savez, on repère même des bébés in utero qui se touchent, qui
au niveau des parties génitales.
Oui, tout à fait. Alors après, évidemment, ça va prendre plus ou moins, parce qu'il y a des moments où des zones sont plus particulièrement érogènes et plus particulièrement attirantes, donc notamment quand on est autour de la bouche, etc. Et puis quand s'éveille petit à petit la génitalité, c'est celle-là qui va être sollicitée. Si en plus on a trouver comment ça fonctionne, alors évidemment c'est tambour battant que l'enfant y va.
Apparemment elle y retourne à chaque fois sous la douche, donc est-ce que sa maman, elle doit avoir une réaction particulière? Elle pose la question, elle dit bon, je sais que c'est naturel, est-ce que je dois lui dire quelque chose, ou est-ce qu'elle laisse sa petite-fille se toucher tranquillement sous la douche?
Je pense qu'il faut tranquillement aussi dire que écoute ma chérie, c'est super, c'est formidable, parce qu'évidemment si sur la douche ça la regarde, elle est nue.
À deux ans, la maman est souvent là pour prendre le bain du petit enfant. Ouais.
Voilà, exactement. Après s'il y a une fratrie, je crois que c'est important de pouvoir dire que ce qui concerne le corps de l'un ne concerne pas le corps de l'autre. Alors elle est encore toute petite, donc la capacité qu'elle a à retranscrire sa compréhension est peut-être faible, mais la capacité à comprendre, elle, est pleine et entière, puisqu'elle est en train d'acquérir pleinement le langage et la liberté de ce langage.
Jimmy ?
Et quand est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Et si on doit s'inquiéter, qui doit-on aller consulter ?
Alors, s'inquiéter, c'est quand on n'arrive pas à aider l'enfant à être dans une vie sociale tranquille, donc, et où il risque de rencontrer la raillerie des uns et des autres, pudeur, voire pudibonderie des adultes, et du coup qui le stigmatise, c'est ça qui est plus inquiétant.
Parce que là, sous la douche, c'est pas très gênant, mais si la petite fille, elle met tout le temps la main dans sa culotte, à la crèche ou je ne sais quoi, là, c'est peut-être plus embêtant.
Parce qu'elle va rencontrer une société qui n'est pas prête à faire avec ça, parce que c'est son corps à elle, et c'est ce qu'il faut lui dire, c'est ma chérie, c'est ton corps, alors hop, maintenant on ferme, par exemple si elle a encore des couches, maintenant on met la couche, c'est terminé, ça sera pour plus tard, et puis non, là maintenant c'est le bain, si c'est ou la douche, s'il y a des frères, des sœurs, bon, écoutez, les enfants, chacun s'occupe de son corps. Il faut pouvoir aider petit à petit, mais il faut évidemment ne pas avoir peur d'être face à cela. Parce que quand c'est une petite fille, a fortiori, quand c'est une petite fille, on a toujours l'idée que celle-là, elle va être chaude bouillante. Et comme elle va être chaude bouillante, on est inquiet. Parce que dans notre culture...
Et ça ne veut pas dire ça du tout, on est d'accord. Mais toutes les petites filles se touchent vers 2 ans.
Mais bien sûr.
Et les petits garçons aussi, d'ailleurs.
Et les petits garçons également. Simplement, d'abord, nous, quand on pourrait se dire, mais non, moi, non, ça ne s'est s'est pas passé parce qu'on n'a pas de souvenir de cette époque-là. Et puis aussi parce que les circonstances d'éducation n'ont pas fait non plus toujours une proximité avec les parents ou avec les autres, etc.
Mais donc, vous avez raison, parce que quand vous dites qu'on a peur que la petite fille devienne une chaudasse. Moi, j'ai mon enfant de 3 ans qui fait ça, mais ça me fait rire. Je lui dis, enlève ta main de ton slip. Il comprend, il arrête. Mais je n'ai pas cette crainte de l'homme qui serait finalement un séducteur.
Voilà.
C'est parce que c'est une fille que du coup, ça nous angoisse énormément.
Exactement, parce que nous avons peur de l'excitation féminine, du désir féminin. Et c'est fortement ancré dans notre société. Il y a des siècles d'histoire là-dessus. Et on est encombré de ça. Et les mamans elles-mêmes sont inquiètes quant à cette excitation par peur d'avoir fait l'enfant coupable. Il faut quand même rappeler qu'on les brûlait sur les bûchers à certains siècles, que c'était, enfin, dès qu'il y avait de la sexualité, c'était des sorcières, c'était des prostituées, etc.
Donc, alors que c'est tout à fait normal.
Alors que c'est tout à fait normal, juste à dire à l'enfant qu'il y a un cadre dans lequel ça se fait, un cadre dans lequel ce n'est pas opportun. Et c'est tout petit que ça s'apprend tranquillement.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, on va s'intéresser au yoga prénatal. Notre invitée, Émilie Yana, nous donnera plein de conseils pour soulager les maux de dos, les nausées et comment mieux dormir aussi grâce au yoga et au pilates.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.